Dans notre précédente étude sur la nouvelle naissance, nous avons surtout insisté sur la relation entre le baptême d'eau et cette nouvelle naissance. Car Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons quel est le rôle de l'esprit dans cette transformation qui s'opère en l'homme dans la conversion. Des positions extrêmes ont été âprement soutenues concernant le rôle de l'esprit de Dieu. Et il faut avouer que c'est là une question mal connue, mal comprise, souvent entourée d'une brume superstitieuse. Pour de nombreuses personnes, le Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une abstraction nébuleuse personnifiée. Sa nature est mal définie, et son rôle et son œuvre dans le monde encore davantage. Je vous invite à aborder cette étude avec un cœur ouvert. Nous n'avons pas la prétention de jeter une lumière définitive sur cette question, mais comme toujours, nous nous servirons de la Bible pour éclairer notre jugement. Lorsqu'elle affirmera, nous affirmerons, et lorsqu'elle se taira, nous respecterons son silence. Pour faciliter notre tâche, nous restreindrons notre étude au rôle de l'esprit dans la conversion ou la nouvelle naissance. Notre prochaine étude développera le rôle de l'esprit dans la vie du chrétien. Quant à la véritable mission de l'esprit, peu de passages sont aussi explicites que celui qui se trouve dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Jean. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Par ces mots, Jésus prépare ses disciples à l'idée qu'il va bientôt les quitter. De cette lecture, nous pouvons dégager trois éléments principaux qui constituent la mission de l'Esprit. Premièrement, il demeurera avec les disciples en tant que consolateur. Deuxièmement, il les guidera dans toute la vérité. Troisièmement, il convaincra le monde. Ici, une remarque importante s'impose. L'influence de l'Esprit sur le monde ne devait pas être directe. L'Esprit agira par l'intermédiaire des disciples de Jésus. C'est eux que Jésus enverra en mission de par le monde en leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Peu de temps auparavant, Jésus avait prié « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Dans cette prière, il y a comme un leitmotiv, une idée maîtresse que l'on trouve dans des expressions telles que « ta parole »,« ma parole »,« leur parole »,« la vérité ». C'est que nous avons ici, comme partout ailleurs dans la Bible, le principe de l'action de Dieu, sa puissance créatrice, son pouvoir revitalisant et régénérateur, à savoir sa parole. L'apôtre Paul écrira à cet effet, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments du cœur. » Et sans aucune transition, après avoir parlé de la parole de Dieu, l'épistolier parle de Dieu lui-même au verset suivant. Nulle créature n'est cachée devant lui. On s'attendait plutôt à ce qu'il dise « Nulle créature n'est cachée devant elle », puisqu'il vient de parler de la parole. Mais nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Celui qui me rejette, avait dit Jésus, et qui ne reçoit pas mes paroles, ce n'est pas moi qui le juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ainsi, les disciples à qui la promesse avait été faite directement, investis de l'autorité du Christ, sont partis à la conquête du monde avec pour seule arme l'Esprit de Dieu agissant par sa parole. Avec une véhémence qui transparaît nettement, l'apôtre Paul écrira aux chrétiens de Rome « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il écrit encore « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ceux qui attendent que l'Esprit de Dieu tombe miraculeusement, inopinément et irrésistiblement sur les pécheurs pour les transformer d'un seul coup, méconnaissent et la nature et le rôle de l'Esprit. La conversion est l'œuvre de la parole de Dieu. Ce n'est donc pas l'œuvre d'un quelque chose, mais, comme nous l'avons vu, c'est l'œuvre de quelqu'un. Christ nous envoie comme des lumières dans le monde pour conquérir le monde, non pas avec notre science, ni avec notre sagesse, mais avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, écrit l'apôtre Paul. Mais il ajoute avec une logique désarmante, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans sa merveilleuse parabole du semeur, Jésus avait déjà souligné le rôle actif et fécondant de la parole de Dieu. Il la compare à la bonne semence. C'est pourquoi les apôtres parlent d'engendrement ou d'enfantement par la parole lorsqu'ils évoquent la conversion. Par exemple, Jacques écrit que Dieu nous a engendrés, c'est-à-dire qu'il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que c'est lui qui les a engendrés en Jésus-Christ par l'Évangile. Citons encore l'apôtre Pierre qui déclare « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et cette parole, souligne-t-il, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Avec ces quelques passages que nous avons relevés, il est permis de conclure que le rôle de l'Esprit dans la conversion est inséparable de la parole de l'Esprit, car nous avons vu que cette parole est capable de sanctifier, de convaincre, d'instruire, d'engendrer, de régénérer et de sauver. Il est évident que l'Esprit de Dieu se manifeste aussi dans sa providence insondable, favorisant telle ou telle circonstance qui conduira telle âme à la conversion. À cet égard, bon nombre de chrétiens peuvent témoigner de l'intervention providentielle de Dieu dans leur vie personnelle, sous la forme d'une rencontre, d'un incident ou même d'un accident qui a déterminé un retour vers Dieu. Cependant, pour rentrer dans la famille de Dieu, il faut avoir rompu avec le passé, il faut avoir été fécondé et engendré par la parole de Dieu et être entré en contact avec le sang du Christ par cet acte de foi et de repentance qu'est le baptême. Car si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. « Dieu nous a sauvés, écrit l'apôtre Paul, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Lundi prochain, nous verrons l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans la croissance spirituelle du nouveau converti, c'est-à-dire l'habitation de Dieu dans le cœur de l'homme nouveau.